Interview. L'interview du jour.
Depuis le Wireless Dubfest 2 sur RDWA, interview avec Robin, salut.
Salut.
Le Phone Stepper, c'est ça ton nom? Raconte-nous ce projet.
Eh bien, le Phone Stepper, c'est un projet qui date d'il y a 6 ans. En fait, j'ai commencé à produire de la musique électronique avec mes influences reggae dub et la trompette. Et du coup, le projet a bien évolué depuis les premiers albums et ce que je fais maintenant. Donc maintenant, je vais plus vers de la musique orientale et plus, je vais essayer d'aller chercher de la musique un peu plus ouverte par rapport au dub traditionnel. Et du coup, vraiment électro-dub.
C'est quoi ton parcours à toi pour en arriver à la musique ?
Eh bien, je suis né dans une famille de musiciens, donc j'ai appris la trompette, le solfège, le piano quand j'étais tout gamin. Et du coup, j'ai joué dans quelques groupes aussi quand j'étais adolescent, avec les copains. Du coup, première expérience de scène, je pense à 14-15 ans. Et puis en fait, tout mon entourage, mes amis, etc., on fait tous de la musique. Donc moi, j'ai jamais lâché et voilà quoi.
T'as pas fait d'école particulière ?
Alors j'ai pris des cours en école de musique de campagne, mais j'ai pas fait de plus d'études que ça dans la musique, non.
Et les premiers groupes, tu jouais déjà du reggae, du dub ?
Non, pas vraiment. Le premier groupe c'était une fanfare. Quand je jouais, on faisait des reprises actuelles avec les copains, et j'ai joué aussi dans des orchestres d'harmonie et des ateliers musique du monde aussi. Et je joue actuellement aussi dans un groupe où on fait de la techno orientale.
Cite-le.
Ça s'appelle Cookie Bankies.
Il y a déjà des prods sortis, des trucs édités, on peut vous écouter ?
Alors c'est un projet très récent, pour le moment on a un morceau qui est sorti et une live session. Et c'est plutôt un projet axé sur le live pour le moment.
Revenons à Le Phone Stepper, tu apparais d'un coup avec un premier album qui est assez fou, hyper complet, sur Bandcamp tout seul, pas de label, pas de rien. Qu'est-ce qui t'a pris et est-ce que tu peux nous raconter un peu l'expérience de sortir un projet sur Bandcamp en étant absolument pas connu ?
Eh ben en fait c'était un peu... cet album-là, ça a été vraiment des années et des années d'envie musicale et de plein de choses que j'avais dans la tête en fait, que j'avais besoin de mettre sur un support. Et du coup effectivement il est très éclectique, il part un peu dans tous les sens. Et le but c'était d'explorer justement. Et en fait, ouais, c'est un gros album de 16 titres. Et en fait, je l'ai sorti pour me faire plaisir et pour les copains et la famille à la base, sans aucune attente d'auditeur, auditrice derrière en fait. Et au final, il y a eu quand même des gens qui ont commencé à suivre le projet dès ce premier album. Du coup, belle surprise pour moi. Et pareil, il n'y avait pas non plus de projet de live derrière. C'était vraiment juste de la production studio dans mon coin, quoi, dans ma chambre.
Du coup t'es repéré, est-ce que là on te propose de jouer et du coup bah tu te dis merde, j'ai pas de quoi, je peux pas jouer, j'ai pas de live?
Ouais, tout à fait, du coup on commence à me proposer à jouer. Alors je fais partie d'un collectif aussi, Sound System. Du coup j'ai commencé à jouer mes productions en sélection au début. Et j'ai commencé à me faire inviter par les copains qu'on est Sound System aussi dans la région nantaise. Et pareil, toujours en sélection et toujours avec la trompette un peu quand même sur des versions, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, là, faut que je fasse un live. Donc les premiers lives, ils étaient durs, hein, mais j'avais pas l'expérience, j'avais pas les outils, donc...
Raconte-nous.
Bah, je livais sur... parce que moi, je produis sur Cubase, du coup, qui est un logiciel de production MAO. Et je livais sur Cubase, alors que c'est un outil qui est vraiment utilisé uniquement pour le studio, normalement. Pas du tout adapté pour le live. Donc les premiers lives, c'était une galère, ça marchait pas et tout, c'était compliqué. Donc maintenant, il y a du chemin qui a été parcouru et j'ai construit aussi mes nouveaux morceaux et mes nouveaux albums pour le live aussi, maintenant.
Tu travailles sur quoi maintenant ?
Alors, je travaille toujours sur Cubase, sur la production, et je live sur Ableton Live, comme je pense la plupart des artistes.
Est-ce que il te faut un état particulier pour composer ?
Ça dépend, en vrai. Ça dépend des périodes. En fait, j'ai pas vraiment de routine. Mais j'ai quand même ma routine musicale où je pratique mon instrument, mes instruments, tous les jours. Et en fait, souvent, je commence à produire l'après-midi, le matin, ça arrive aussi. Et si l'inspiration vient pas, je fais autre chose. Et ça sert à rien de forcer, parce que je me suis rendu compte qu'en forçant, j'étais jamais content du résultat. Au final, le projet, il partait à la poubelle. Du coup, c'est vraiment, c'est de l'inné. Des fois, je sais pas où, en vacances avec mon camion. Là, j'ai des idées. En fait, je note sur un petit calepin mes idées. Et quand je suis au studio, je me dis, ah tiens, j'avais ça comme idée, et c'est reparti, quoi.
Qu'est-ce que tu peux noter comme idée quand tu fais de la musique, a priori, plutôt qu'instrumentale ?
En vrai, c'est beaucoup d'influence. Par exemple, si je vais tomber sur un morceau que j'aime bien, vraiment un petit détail, ah, par exemple, j'aime bien cette guitare ou j'aime bien cette ambiance-là dans ce morceau, je vais me noter ça, tu vois. Après, j'ai mes petites annotations sur les rythmes, sur les sonorités, etc. C'est... ouais. En fait, ça vient surtout de ce que j'entends ailleurs et de ce que je peux... des influences que je peux avoir extérieures, quoi.
Qu'est-ce que t'écoutes alors ?
Beaucoup de choses. Alors j'écoute beaucoup d'électro-dub, bien sûr. J'écoute beaucoup de musique du monde, de musique des Balkans, musique orientale, Afrique du Nord. J'écoute du rap, j'écoute plein de choses. J'écoute des fanfares, la musique balkane, ouais. Très varié. En vrai, c'est ce qui m'aide aussi à apporter une richesse à mon projet, d'écouter plein de styles. Il y a juste le rock, la chanson française où j'accroche pas trop, voilà, c'est toujours des styles où j'y vais pas trop, mais bon, je me force un petit peu des fois.
Donc tu nous as parlé de trompette, t'as dit aussi plusieurs instruments, tu joues de quoi en fait ?
Alors je joue du didgeridoo aussi, et quelques flûtes aussi, j'ai une petite panoplie de flûtes à la maison, des petites percussions aussi, darbuka, voilà, mais c'est pas des instruments que je vais jouer en live, c'est vraiment la trompette que je vais mettre en valeur sur le live, et le reste ça va être... de la prise de studio du coup qui va être dans les bandes son sur le live quoi.
Et du coup toutes tes compos, la basse, les rythmiques, tous ces trucs là, c'est plutôt des samples, plutôt des choses que tu as fabriquées avec des logiciels ?
Eh bien ça dépend. Là je commence à avoir une belle panoplie de synthés analogiques assis à la maison. Donc toutes les lignes de basse, les synthés, etc. C'est du synthé analogique. Les percussions, c'est pas, j'essaie de plus en plus d'enregistrer de la vraie percussion ou d'utiliser des samples sinon. Et donc il y a un mix entre MAO, samples, vrais instruments. Et comme je disais, je suis aussi très entouré de copains de musiciens. Du coup, j'aime bien faire intervenir des fois un pote qui est guitariste, un pote qui est chanteur, etc. Ou qui est bassiste, tu vois.
Oui, et on le sait pas.
Et non, alors c'est crédité sur les morceaux, mais effectivement, c'est pas vraiment des featuring parce que c'est des petites interventions pour des instruments que moi je sais pas jouer. Mais effectivement, ouais, comme je suis entouré, je me dis autant profiter. C'est les copains, quoi, c'est cool. De partager ça avec l'entourage, quoi.
C'est toujours intéressant de savoir que dans les parties studio, il y a des musiciens de studio qui apparaissent nulle part, et puis de temps en temps, quand même, tu vas choisir de mettre en avant des featuring. Pourquoi ?
Eh ben, en fait, c'est plus les petites interventions d'instruments sur les musiques qui sont un peu en fond, en fait. Et du coup, je vais pas appeler ça un featuring parce qu'en fait il n'y a pas de place, il n'y a pas de composition derrière avec la personne, c'est vraiment...
C'est toi qui lui impose une ligne quoi.
Alors ça dépend, des fois je lui dis là fais ce que tu veux tu vois, mais ouais ça part d'une idée, là je dis bah j'aimerais bien un peu de guitare à cet endroit là, est-ce que tu veux me faire un petit riff ou un petit skank tu vois, et... mais je vois pas ça comme un featuring où la personne est vraiment mise en avant sur le projet et par contre effectivement il y a des featuring avec des chanteurs ou des instrumentistes où là il y a vraiment une partie qui est écrite sur tout le morceau, il y a vraiment une mise en valeur, bah là effectivement je vais appeler ça un featuring quoi. Ouais.
Alors donc t'as été aussi invité toi-même sur un certain nombre de morceaux, souvent à la trompette, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu, comment est-ce que tu bosses avec quelqu'un quand tu fais un feat ? Est-ce que vous vous rencontrez vraiment physiquement ? Est-ce que tout se passe à distance ? Comment on écrit à deux quand on est deux trucs bien arrêtés, que c'est pas un groupe quoi ?
Eh bien la plupart du temps ça se fait à distance. Alors souvent les premiers contacts se font en réel en fait, c'est tu rencontres les gens sur des festivals, sur des événements, tu discutes et il y a aussi des gens que j'ai rencontrés d'abord sur internet, sur Instagram et au final on s'est rencontrés en vrai après. Mais souvent le travail se fait à distance. En fait moi j'enregistre mes trucs dans mon studio, je les envoie, ça se renvoie à la balle, etc. Parce que c'est pas forcément évident de se retrouver en studio et c'est pas facile aussi de bosser avec quelqu'un d'autre en studio, surtout quand tu connais pas la personne. On a tous des façons de travailler différentes et des fois c'est pas le moment, du coup tu le fais plus tard. Et je trouve ça plus bénéfique au final de faire du travail à distance des fois que de travailler ensemble, surtout pour de la production studio. Pour du live c'est différent mais pour du studio ouais moi je suis assez j'aime bien avoir mon confort chez moi dans mon studio avec mon matos, pouvoir le faire quand j'ai envie et ça du coup c'est cool.
Et quand on prend un invité on lui demande plutôt de rajouter quelque chose sur quelque chose qu'on a fait ou tu peux autoriser aussi à enlever des trucs qui pourraient lui déplaire?
Bah après moi je suis complètement ouvert en vrai aux critiques et En vrai, le but d'un featuring, c'est que les deux personnes, les trois personnes soient contentes du projet final. Et forcément, il y a des choses qui sont rediscutées dans tous les cas. S'il y a des choses qui plaisent pas, moi, je suis pas du tout... À aucun moment, j'ai imposé quelque chose à quelqu'un sur un morceau en mode, tu vas faire ça, ça, ça. Non, au contraire, je suis plutôt... Moi, j'aime bien qu'on me laisse champ libre, justement, quand on m'invite sur un featuring. Et du coup, je fais la même chose quand j'invite du monde.
T'es un artiste indépendant ?
Ouais, alors je suis accompagné quand même, mais je suis quand même très indépendant, ouais. Je suis accompagné par un label, du coup, qui s'appelle ODG Prod, qui est basé à Tours. Et par une boîte de booking et voilà. Mais ça reste des petites structures et du coup je suis quand même assez indépendant, ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est large. Indépendant, ça veut dire, j'ai envie de dire, l'indépendance totale, c'est de tout faire soi-même. Et que ça soit financièrement, que ça soit sur la communication, la production, tout quoi. Moi effectivement je suis accompagné un petit peu sur la production musicale avec ODG, je suis accompagné sur les dates avec le booking avec W Brain et financièrement aussi par le label qui m'aide sur les productions d'albums, c'est important aussi. Donc mais si tu veux j'ai pas de contrat spécifique, si demain je veux sortir un album 100% indépendant je peux le faire aussi quoi. Il y a personne qui me met de barrière en fait.
Et puis ODG c'est de la musique libre, gratuite ?
Ouais tout à fait. C'est de la musique libre et gratuite, accessible à tout le monde. Elle est payante pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui veulent soutenir, acheter du physique, etc. Et ça, c'est super chouette. Et d'ailleurs, mon premier album, c'est pareil, je l'ai sorti en free, complet pour tout le monde. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. En vrai, la musique doit rester accessible à tous. C'est un truc que j'ai envie de défendre, ouais.
Et alors, du coup, comment t'en vis ?
Eh ben, je vis des concerts, principalement. Je vis des concerts, et faut pas oublier quand même, les musiques sont distribuées sur les plateformes de streaming. Donc il y a quand même des revenus qui sont générés via ces plateformes. Il y a aussi des plateformes un peu différentes comme Bandcamp, SoundCloud du coup qui rémunèrent directement eux les artistes. Donc il y a quand même une partie de l'argent qui m'est reversée. Il y a les droits de SACEM, etc. aussi. Donc mais majoritairement c'est pour en vivre c'est les concerts.
Et t'es intermittent ?
Ouais je suis intermittent du spectacle depuis un an.
Donc c'est le projet Le Faune et ce qu'il y a à côté qui fait tourner, t'as plus besoin d'un autre travail.
Ah, c'est ça, je fais que de la musique. Donc le Phone Stepper plus le groupe Cookie Bankies, je fais mes cachets pour l'année, donc c'est le top.
Et quand t'étais pas intermittent, t'avais un autre boulot ?
Tout à fait.
Tu faisais quoi ?
Je travaillais avec les animaux avant. J'étais soigneur animalier, donc j'ai travaillé dans des fermes pédagogiques, des refuges, des zoos aussi. J'ai fait ça jusqu'à mes 22-23 ans et au fur et à mesure, la musique prenait de plus en plus de place dans ma vie. J'ai quitté ce boulot, j'ai fait un peu d'intérim et maintenant je suis intermittent. Ça s'est fait en fait, ça s'est fait sur le long terme.
Et en quoi être soigneur d'animaux a influé sur le Faune Stepper ?
En vrai, il n'y a pas tant de rapport. Alors j'ai toujours eu un rapport quand même à la nature en général, mais du coup le Faune c'est vraiment le personnage de la mythologie. Et alors quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup jouer de la flûte dans la forêt avec mes potes. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Et du coup, il y avait un peu ce truc-là de mythe de jouer de la forêt autour du feu avec les potes dans la forêt. Et du coup, c'est de là un peu que vient le Faune Stepper.
T'as testé la flûte de pan du coup ?
Non, j'ai jamais eu l'occasion, malheureusement. Attends, j'ai un bon panel de flûte à la maison, mais jamais la flûte de pan.
Voilà, donc tu seras pas un faune classique. J'ai remarqué que t'avais pas non plus des pieds de bête.
Non, mais ça, c'est mon déguisement d'humain pour me fondre dans la masse.
C'est quoi tes grandes envies pour ta carrière ? Est-ce que tu l'imagines ?
Alors, en vrai, j'ai déjà l'impression d'avoir atteint les rêves et les objectifs que j'avais déjà de moi il y a 4 ou 5 ans. Déjà, je pensais pas en arriver là avec ma musique. Et du coup, je me projette à faire de la musique avec d'autres mondes aussi, plus de featuring. Et à voyager aussi, à rencontrer des gens. Donc là, je travaille sur un prochain album, du coup, mais qui est plutôt solo. Il y aura quand même des featuring, etc. Mais pour les années prochaines, je pense que j'aimerais vraiment travailler sur des albums en feat complet, quoi, avec d'autres artistes. Et essayer d'élargir un peu le spectre, sortir du dub électro, enfin rester dans le dub électro, mais avec des influences vraiment d'ailleurs aussi, et d'élargir un peu ce spectre du dub ailleurs. Et en fait, j'aime pas la routine, j'aime pas faire du déjà vu et du fait et refait. Voilà.
C'est compliqué, non, ça ?
C'est très compliqué et du coup c'est pour ça que je mets de plus en plus de temps à produire et à faire des choses qui me plaisent. Mais il faut, je suis partisan de prendre le temps et c'est pas grave s'il n'y a pas un album tous les ans ou tous les deux ans. je préfère prendre le temps et faire quelque chose qui me plaît vraiment plutôt que de faire des choses que j'ai déjà pu faire ou qui s'écoutent ailleurs aussi. Et ouais, j'aime bien cette philosophie de pousser vraiment les choses encore plus loin, toujours plus loin.
Est-ce que du coup, tu auras envie de t'exprimer sur la frénésie de production, enfin ce besoin aussi de paraître, d'apparaître avec maintenant les nouveaux réseaux? Comment est-ce que tu vois ça, toi?
En fait, je le comprends totalement. Quand c'est ton métier, effectivement, il faut produire si tu veux en vivre. Moi, je suis pas de cette école-là, mais je comprends totalement les gens qui le font. Et il y en a qui le font très bien en plus, qui sortent des albums tous les ans, qui sont géniaux. Moi, j'ai pas cette capacité-là à le faire. Ça, on a la chance d'avoir un milieu quand même dans le dub. Il n'y a pas une grosse industrie derrière qui va pousser énormément les artistes. Il y a quand même toujours une liberté de s'exprimer et de faire un peu ce qu'on veut. Et du coup non, moi je me mettrai jamais des bâtons dans les roues en me disant allez là, faut que tu fasses un album tous les ans, etc. C'est pas quelque chose qui me plaît. Et si j'avais l'énergie et l'inspiration pour le faire, peut-être que je le ferais. Mais j'aime bien aussi sortir et pas passer toute ma vie dans mon studio. Je passe déjà assez de temps comme ça dans mon studio, je trouve. Et voilà comment je me positionne.
Ouais, tu nous as dit que tu t'y mettais des fois le matin ou des fois l'après-midi, mais effectivement, j'aurais pu poser cette question. C'est à quelle fréquence? C'est tous les jours? C'est... Tu dis que tu passes trop de temps?
Ça dépend des périodes. Encore une fois, c'est très fluctuant. En vrai, il y a des périodes où ça coule de source et du coup, ça va être tous les jours, 6 heures par jour de studio. Des fois, je vais pas y arriver. Ça va être une semaine sans faire de studio. Et ouais, c'est vraiment aléatoire, en fait. Souvent, j'ai plus de temps en hiver pour produire, mais j'ai moins d'inspiration et moins d'envie d'hiver parce qu'il n'y a pas de concert, il y a moins d'énergie. Et du coup, l'été, je me retrouve avec plein d'envie, mais pas le temps parce qu'en fait, c'est l'été, quoi. Il y a les concerts, il y a les copains, la famille qu'il faut aller voir aussi. Et du coup, c'est pas facile de trouver un rythme. Mais bon, voilà, après, là, c'est la liberté aussi d'être intermittent et de choisir son rythme et son emploi du temps un peu comme on veut, quoi.
On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on écoute de toi?
Je mettrais le Little Wanderers, qui est un featuring avec Kenza Louis, qui a une musique très calme, très chill, je crois, qui est sortie il y a 2 ans. Ouais, Little Wanderers avec Kenza Louis, c'est un style que je fais pas beaucoup pour le coup, c'est très calme, c'est un peu roots, et j'aime beaucoup cette musique, même si c'est vrai que je la joue pas en live parce qu'elle est trop calme. J'aime toujours l'entendre, et c'est une petite douceur d'entendre la voix de Kenza. Voilà.
Qu'est-ce qu'un artiste solo et quelqu'un de solitaire ?
Alors, en vrai, oui. Alors moi, pour le coup, je suis plutôt solitaire dans la vie de tous les jours.
Mais pas par obligation.
Non, du tout. J'aime bien quand même passer du temps avec les gens, etc. J'habite en colocation, je vis avec des gens. Mais c'est vrai que je passe un peu pour un ermite auprès de mes colocs. Je suis tout le temps dans ma chambre en train de faire du son, nanani. Mais j'ai besoin de ces moments de solitude aussi pour moi. Parce que j'aime pas être tout le temps avec des gens. Même si j'adore les gens, j'ai besoin d'avoir mes moments de solitude. Que ça soit pour la musique ou juste pour mon bien-être personnel, en fait.
Qu'est-ce que ça t'a fait de proposer, dans une démarche plutôt solitaire, justement, de la musique qui, en fait, est très rassembleuse ?
Bah, c'est hyper émouvant, déjà, de voir qu'il y a un public qui te suit, qui vient à tes concerts, qui écoute tes morceaux.
Qu'est-ce qui t'a traversé ?
En vrai, c'est différent selon les... En fait, ça s'exprime surtout pendant les concerts, je trouve. Après les concerts et pendant les concerts. Et c'est différent selon toutes les dates, je trouve. Il y a un ressenti qui est différent. Mais il y a beaucoup d'émotions qui traversent, de voir les sourires dans le public, les gens qui sont à fond, les gens qui viennent faire des retours aussi personnels après. Et de voir que ça touche autant de monde, que ça traverse les gens, moi, ça m'émeut de fou. À aucun moment, j'aurais pu imaginer ça il y a des années de ça. Et surtout que j'ai jamais voulu faire de la musique pour plaire aux gens et juste faire de la musique qui me plaît à moi d'abord, et au final du coup très content de savoir que ça peut plaire aux gens aussi, quoi. Et c'est compliqué d'exprimer ce ressenti là effectivement, le contraste de faire de la musique tout seul pour au final la jouer devant plein de monde, il est assez particulier, et ouais, je saurais pas exprimer mieux cette sensation, en vrai.
Parce que tu t'étais quand même dit, quand t'as 14 ans, tu montes un groupe de musique, tu te dis, bon, ça fait partie de mes objectifs, je veux monter sur scène, être face à des gens.
Alors, il y avait cette idée-là, ouais, quand j'étais ado. Déjà, le premier groupe, de jouer déjà avec d'autres personnes, et en plus sur scène, c'était trop bien à cet âge-là de pouvoir le faire, en plus. Et
un putain d'ego quand même.
Eh bien, je sais pas, tu vois, moi je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup au micro typiquement, et je suis de nature assez timide dans la vie de tous les jours. Et la scène, c'est aussi une façon pour moi de m'exprimer plus que je ne vais le faire à l'oral avec des gens. Mais c'est un peu une mise à nu en même temps, c'est marrant d'être confronté à ça. Et j'ai cette chance de pas avoir le trac, de pas avoir la boule au ventre avant de monter sur scène. Je me sens bien, en fait. Je me sens bien avec les gens, devant les gens. Et ouais, c'est une sensation qui est super agréable pour moi, en tout cas. J'aime autant faire du studio que de la scène, j'aime bien les deux. Le sound system aussi, sound system style, c'est très cool. T'as une proximité avec le public qui est trop chouette, j'aime bien les deux. Et voilà.
Est-ce que t'as une anecdote de truc horrible qui t'est arrivé depuis que tu joues ?
En vrai, horrible... Il m'est jamais rien arrivé d'horrible, pour le moment. Ça m'est déjà arrivé d'avoir le PC qui plante complet pendant le live. Donc ça, c'était au tout début, hein, c'était un vieux PC. Voilà, du coup, j'en parlais tout à l'heure, je l'avais sur Cubase, du coup, qui est un logiciel pas du tout adapté pour le live. Le vieux PC qui avait 10 ans, bon bah là, il lâche en plein festival. Là, je suis en mode, oh là là, c'est la loose, comment je fais ? Du coup, par chance, j'avais un disque dur avec les masters de mes tracks de l'album. Du coup, je sors le disque dur, je branche sur la CDJ et je fais un DJ set, quoi. On sauve les meubles comme on peut, mais je pense que ça a été la moins bonne expérience de live que j'ai pu avoir. Après, des fois, je suis arrivé aussi dans des endroits où ça a été compliqué. Le public n'était pas du tout aguerri à ce style de musique-là. Ça arrive, c'est le jeu aussi. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de mauvaises expériences pour le moment, en tout cas.
C'est une bonne question. Se faire programmer dans un festival qui est pas du tout dub, par exemple, ou même pas reggae, ou d'être un peu le... Alors, j'imagine que toute la programmation est un peu unique, du coup. Enfin, chacun est dans son style. Comment on s'adapte ? Est-ce qu'on arrive aussi à se rencontrer quand même entre artistes pas du tout du même genre ?
Alors, en vrai, si, il y a toujours des connexions qui se font. Peu importe le style, les artistes, il y a forcément des connexions qui se font. C'est quand même un milieu où on discute, en fait, avant, après concert. Même si moi, j'aime pas le rock, je vais quand même aller écouter le concert et je vais aller discuter avec les artistes après. C'est cool d'échanger. Et effectivement, sur les programmations éclectiques, mais moi, j'aime bien justement découvrir. Des fois, je fais des découvertes de groupes que je connaissais pas et qui sont géniaux. C'est là où tu fais des connexions, des fois, en fait, parce que dans le milieu du dub, quasiment tout le monde se connaît. Et là, en fait, tu crées des connexions avec des gens que tu connais pas du tout, et c'est ça qui élargit le champ des possibles aussi. Justement, de pouvoir, pourquoi pas, faire un featuring avec quelqu'un qui fait, je sais pas, de la cumbia, j'en sais rien, ou des groupes qui n'ont aucun rapport avec le dub, quoi.
Il faut que je te trouve un groupe de rock avec qui il faut que tu fasses un feat.
Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis pas du tout fermé à ça, par exemple. Et en vrai, c'est la connexion humaine pour moi qui prime avant tout, avant le style. La connexion humaine, et puis bah, bien sûr, faut aimer quand même les deux côtés, ce que propose l'autre, mais c'est ouais, la connexion humaine d'abord. Si ça match en fait humainement, forcément ça va matcher musicalement pour moi.
Est-ce que le projet Le Faune Stepper s'exporte maintenant hors de France ?
Un petit peu, ouais. J'ai commencé à faire de la date à l'étranger. J'ai joué pas mal en Allemagne ces dernières années. J'ai fait l'Allemagne, l'Espagne. J'ai été jouer au Maroc aussi l'année dernière. Bon, ça reste quand même principalement en Europe. Et par contre, je pense qu'en écoute, en streaming, etc., ça écoute un peu partout dans le monde, globalement. Mais sur le live, ça reste quand même beaucoup en France et en Europe.
Et qu'est-ce qui t'a ouvert du coup sur l'international, enfin sur l'Europe ?
Qu'est-ce qui m'a ouvert ? En fait, des programmateurs, hein, programmatrices à l'étranger qui m'ont fait venir. Ou juste des fois des premiers messages qui font un premier contact sur Instagram. On aime bien ta musique, on aimerait bien te faire venir un jour. C'est quoi tes conditions ? Comment est-ce que tu viendrais, etc. Et notamment en Allemagne, en fait, je suis parti une première fois en tournée avec Candy en Allemagne. Et là, j'ai fait une grosse connexion avec l'équipe allemande et du coup, je suis retourné jouer plein de fois là-bas, en fait. Et c'est comme ça qu'on crée aussi des liens, qu'on se fait réinviter, qu'on peut aussi inviter des artistes d'Allemagne en France, etc. Et ouais, j'aimerais bien jouer plus à l'étranger, mais bon, c'est pas facile, il y a le transport, etc. Mais c'est toujours cool, ouais, d'aller jouer à l'étranger. Moi, c'est des bonnes expériences, toujours.
Et ton rapport au transport, justement ?
Eh bien, alors j'aime pas l'avion en vrai. Malheureusement, c'est le moyen de transport le moins cher pour aller à l'étranger. Donc j'ai pris l'avion plusieurs fois pour aller jouer. Si ça devenait trop excessif, je pense que je me poserais des questions aussi. Et j'ai pas envie de prendre l'avion 10 fois dans l'année quoi, pour aller jouer. Des fois, juste pour aller jouer pour une date, quoi, je trouve ça un peu ridicule. Du coup, pour le moment, ça va, parce que ça reste de temps en temps. Mais je privilégierais le train, mais c'est excessivement cher. C'est compliqué. Là, par exemple, je suis venu en voiture à Barnave depuis Nantes, donc ça se fait. Mais ouais, non, l'avion, c'est vrai que écologiquement parlant, c'est un enfer, quoi. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire régulièrement.
Après, s'il y a plus que les artistes qui font de l'avion.
Oui, mais en vrai, l'empreinte carbone, quand même, de l'avion, elle est excessivement, elle est excessive, quoi. Du coup, ouais, je me suis toujours dit, en tout cas, que je serais prêt à refuser des dates à l'étranger si ça devenait trop. Juste faire un aller-retour de 5 heures d'avion pour une date, je serais prêt presque à le refuser, quoi. Même si c'est des belles opportunités, j'ai quand même une petite conscience écologique qui, derrière, il y a un petit démon en moi qui me dit non, fais-le pas, quoi.
Bon, alors si vous voulez organiser une tournée Le Faune Stepper en Amérique du Sud, par exemple, bah, faut qu'il y ait plusieurs dates.
C'est ça. En fait, c'est ça, c'est aussi le modèle des tourneurs aussi, c'est de réfléchir à faire des tournées, en fait. Et pas faire un aller-retour je sais pas où pour une date et ouais c'est le modèle qui est à réfléchir comme ça, mais c'est jamais facile aussi parce qu'aller jouer dans une ville et le lendemain aller jouer dans une ville qui est juste à côté, bah même les programmateurs entre eux ils vont pas être contents, hein. Ils vont se dire bah attends tu fais venir un artiste français, moi en fait je le programme le lendemain, on est juste à côté, c'est pas cool tu vois, du coup c'est pas évident aussi des fois de réussir à être programmé sur plusieurs événements dans les mêmes régions quoi.
C'est valable en France aussi. Hein.
Et c'est valable en France, tout à fait, ouais. Exactement.
Un peu de chauvinisme, qu'est-ce que tu penses d'ici ?
Ah, je suis ravi de découvrir cette magnifique région. Je connaissais pas du tout pour le coup. Et je suis arrivé hier soir et ravi, quoi. Le paysage est magnifique. Bon, il fait chaud, mais je pense qu'il fait chaud partout. Et très content de venir faire ma première date dans le Diwa. Et j'espère pouvoir revenir un jour, même si ce n'est qu'en vacances, en tout cas dans cette très belle région.
Il y a une question que je t'ai pas posée, tu veux y répondre quand même.
Pourquoi l'électrodub ? Pourquoi ce style de musique ? Et du coup, alors, en vrai, comme je disais, j'écoute énormément de styles. Mais en fait, j'ai grandi dans la région nantaise où il y a énormément de sound system et beaucoup d'événements dub. Et en fait, mes potes m'ont emmené dans des événements dub. On avait 15-16 ans à des soirées sound system et je suis tombé amoureux du style, quoi. Après, j'ai découvert l'électro dub. Donc, j'ai découvert Panda Dub d'abord. Je suis tombé amoureux. J'adore ce qu'il fait. J'ai écouté tous les artistes de chez ODG. Et là, je me suis dit, ah, mais il faut que je fasse ça. Parce qu'en fait, à la base, les premiers prémices de MAO de production que j'ai pu faire, c'était de la techno. Avec un pote, de la techno bien débile. Hein. On va pas se mentir. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, l'électrodub, je kiffe, quoi. Et il y a un champ, il y a possibilité d'élargir le spectre musical sur plein de choses. Et du coup, voilà pourquoi je suis parti dans ce style-là. Et pourtant, j'ai pas de racines roots reggae. Alors, j'ai écouté du reggae français un peu comme tous les ados, je pense, à 15 ans, quoi. Mais...
On va pas les citer.
Non, 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 on n'a pas besoin, je pense. Et effectivement, du coup, je me suis retrouvé tout de suite dans ce style électro-dub et je me suis dit, allez, j'essaye. Je fais un premier album et je fais, allez, j'ai envie de continuer, quoi.
Ouais, t'es plutôt un fils spirituel de la scène électro-dub française qui était déjà dans ce mouvement, bien éloigné du roots, bien éloigné du stepper UK, ou voilà, de tous ces styles-là. Tu savais que c'était l'électro-dub à l'époque ?
Ouais, bah, je savais que c'était l'électro-dub quand même. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à cette musique sans m'intéresser à la base de la culture roots, sound system, etc. Et ça, c'est venu un peu plus tard dans ma vie, du coup. Et
est-ce qu'il y a besoin, pour faire cette musique, d'en connaître la racine ?
Je trouve que c'est important quand même, parce qu'il y a quand même des morceaux avec des paroles qui revendiquent certaines choses sur la culture. Et je trouve que c'est important de savoir quand même d'où viennent les racines de la musique, même si maintenant, l'électro-dub, on est bien loin quand même des racines roots et de la musique jamaïcaine. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a du gros roots à côté. Là.
On salue Beekeeper qui fait la sélection.
Bah ouais, carrément. Et du coup, ouais, c'est quand même important de savoir d'où vient la musique. Je trouve ça un peu hypocrite. Déjà, il y a un petit peu une part d'appropriation culturelle, nous, en tant qu'Européens, de jouer de la musique qui vient d'ailleurs. Du coup, c'est quand même très important de savoir d'où elle vient et quelles valeurs elle défend aussi. Et même si moi, je ne suis pas un artiste qui revendique beaucoup de politique et de droit, même si je suis engagé personnellement politiquement, je trouve ça quand même super important, ouais, d'avoir ça en tête, d'où vient cette musique et pourquoi je la fais aussi.
J'ai justement posé cette question. Où est ton engagement ? Les paroles, hein, du reggae, qui après se sont transposées dans le dub, ont soit un côté religieux, spirituel, émancipatoire parfois, soit effectivement un côté politique très très engagé, de lutte contre un système hyper corrompu et qui nous fout tous dans la merde. Du coup, toi, c'est quoi ton engagement, si tu veux le dire ?
Ouais. Alors moi, en fait, Je défends plein de choses, mais étant donné que je suis pas lyriciste, je suis pas chanteur, c'est compliqué d'exprimer des choses juste via la musique et sans parole, en fait. Donc moi, je fais quelques prises de parole au micro pendant mes lives, mais je suis pas assez à l'aise et pas assez connaisseur pour m'engager politiquement sur mes prises de parole. C'est quelque chose que j'aimerais plus faire à l'avenir, mais que j'ai besoin de travailler, justement. Mais par contre, en fait, je soutiens à fond les associations, les événements qui, eux, militent justement... que ce soit contre le fascisme, contre plein de choses. Là, j'ai récemment organisé un festival justement contre les CRA à Nantes, qui sont des centres de rétention administrative pour les migrants. Et du coup, je m'engage de ces façons-là, au-delà de la production musicale aussi, sur d'autres événements.
Proposer la fusion de plein de musiques de plein de pays à travers ton prisme et ta lecture de l'électro-dub, c'est défendre ce que tu dis finalement, même s'il n'y a pas de parole.
Exactement, t'as mieux répondu à la question qu'on m'a pour le coup. T'avais déjà préenregistré la réponse.
Elle est venue comme ça, bah, ce sera pour plus tard, la prochaine interview, tu t'en serviras.
Exactement, c'est vrai que bah, au final, ramener de l'éclectisme et des sonorités d'ailleurs dans la musique, c'est déjà un énorme big up et une preuve aussi de respect et d'inclusion pour les gens racisés et les gens qui se sentent pas à leur place et qui devraient se sentir à leur place. Et je pense que le milieu dub de festival en général, c'est une safe place pour ces gens-là. Et j'espère que tous les événements, tous les organisateurs font en sorte aussi que ces gens-là puissent se sentir bien en fait avec tout le monde, quoi. Et qu'il n'y ait même pas à y réfléchir. En fait, on ne devrait même pas avoir à y réfléchir. Mais malheureusement, c'est toujours compliqué. Et j'espère qu'à Barnav ici, en tout cas, ça va. Qu'il y a un bon mouvement, je pense que oui, j'ai vu des affiches qui sont sympas, etc. Les fachos sont pas autorisés ici, même en laisse, notamment. Et c'est des choses que je défends, en tout cas, même si je le dis pas forcément oralement, des fois, c'est des choses que je défends, ouais.
Est-ce que tu veux une parole libre ? Même pas de la musique, si tu veux.
Bah, moi, je tiens à féliciter toute l'équipe du Wireless Dub Festival, en vrai. J'ai été super bien accueilli, l'équipe est folle, en vrai, que des gens adorables. Et ça fait super plaisir de voir cette énergie dans un petit bled comme Barnav, qui compte, si je dis pas de bêtises, 220 habitants. Donc moi, ça me fait toujours plaisir, en tout cas, de rencontrer ces équipes-là et de voir qu'il y a du mouvement, qu'il se passe des choses dans les campagnes. Et je crois que c'est un des trucs qui me donne beaucoup d'émotion aussi, en fait, de voir qu'il y a des petits collectifs qui se montent un peu partout et qui luttent et qui font vraiment des événements qui sont super, quoi.
Robin, le Phone Stepper, merci à toi. Est-ce que tu veux qu'on se quitte avec un morceau ?
Eh bien, je conseillerais South Trip, en vrai. Premier morceau de l'album, du dernier album. C'est un bon morceau pour se mettre dans le bain tranquillement et rentrer tranquillement dans mon univers.
À la prochaine. Merci d'avoir écouté RDWA. Retrouvez cette interview évidemment sur internet rdwa.fr à la rubrique interview, tout simplement. D'autres seront à venir de cet événement Wireless Dubfest numéro 2 à Barnave, donc. Robin, salut.
Salut, merci Sarou.